Vous écoutez, on lit pour vous.
Hawaï, reflet annoncé de nos désastres écologiques. Un texte d'Ismaël Oussadine, paru le 12 août 2025 dans Le Devoir. Par-delà les clichés de lagons turquoises et de plages immaculées, les îles hawaïennes révèlent les fissures d'un territoire menacé. Longtemps préservé par son isolement, l'archipel voit aujourd'hui sa biodiversité vaciller sous l'assaut des espèces envahissantes, du tourisme de masse et du dérèglement climatique. Sa langue millénaire a frôlé l'oubli. Son agriculture traditionnelle a été supplantée par des cultures industrielles désormais disparues et ses paysages à couper le souffle se trouvent, eux aussi, à la merci des flammes. Installé à Honolulu de septembre 2023 à août 2024, Alexis Riopel a parcouru l'archipel de long en large pour raconter une histoire à double visage, celle d'un effondrement écologique et culturel, mais également d'un renouveau porté par ses habitants. Tous mes reportages touchaient soit la nature hawaïenne en difficulté, soit la culture hawaïenne, elle aussi fragilisée, mais en pleine renaissance. Les deux sont intimement liés, confie-t-il au téléphone. Revenu depuis au Québec, le journaliste du Devoir publie « Reportage hawaïen », un recueil qui rassemble ses papiers écrits sur l'archipel, paru dans son quotidien, mais aussi dans des publications comme L'Actualité ou Le Monde. Son année passée à Hawaï a d'ailleurs été marquée par l'un des pires drames de l'histoire récente de l'archipel. En août 2023, les flammes ont dévasté la ville de Lahaina sur l'île de Maui. 4 mois plus tard, lors de son passage sur place, le journaliste de 32 ans se souvient de l'odeur de cendres mouillées qui imprégnait encore l'air. Plus de 2200 bâtiments avaient été réduits en fumée et une centaine de vies perdues. Les feux les plus meurtriers aux États-Unis depuis un siècle, souligne-t-il. Pour Alexis Riopel, ce drame n'est pas qu'une tragédie locale. Il incarne à lui seul les vulnérabilités profondes de l'archipel et leur résonance bien au-delà du Pacifique. Journaliste spécialisé en environnement, énergie et sciences, il voit dans Hawaï un miroir grossissant des crises planétaires. L'archipel ne représente que 1% du territoire américain, mais concentre à lui seul 44% des espèces végétales en péril du pays, explique-t-il. Il ajoute que les feux de forêt se sont d'ailleurs avérés plus destructeurs que sur le continent, attisés par des herbes importées, hautement inflammables, qui se substituent aux écosystèmes locaux. Les mêmes travers environnementaux que l'on observe ailleurs sont ici amplifiés, dit-il. Ce contraste est d'autant plus frappant qu'Hawaï, autrefois autosuffisante, dépend aujourd'hui presque entièrement des importations pour se nourrir. Les supermarchés regorgent de produits venus d'outre-mer et le tourisme, moteur économique, accentue la dépendance à un système mondialisé qui affecte l'archipel. Les Hawaïens consomment, comme les Américains, avec la richesse et les infrastructures que cela suppose, mais ce mode de vie est aussi un danger pour leur culture et leur environnement, observe le journaliste. Certains projets tentent toutefois de renverser la vapeur. Un des plus ambitieux est celui de Maipono, une entreprise détenue à 100 % par l'un des plus importants régimes de retraite du Canada, celui des fonctionnaires fédéraux, qui a acquis près d'un dixième de l'île de Maui. Dans un chapitre consacré à ce chantier, Alexis Riopel décrit un objectif affiché: relancer l'agriculture sous le label de diversification. Dans la réalité, le programme repose surtout sur la création de vastes vergers d'agrumes installés sur des terres autrefois occupées par les plantations de canne à sucre. Le projet qui accapare l'eau de l'île ne manque pas de susciter des débats. Beaucoup parmi la population s'interrogent. Pourquoi ces terres ne sont-elles pas aux mains de producteurs hawaïens? Et surtout, ce type de culture, aussi rentable soit-il, peut-il réellement ramener l'autonomie alimentaire d'un archipel qui nourrissait jadis sa population grâce au taro ou à loulou, arbre à pain? Relate Alexis Riopel. Loulou, par exemple, était autrefois cultivé intensivement dans certaines régions et suffisait à lui seul à combler des communautés entières. Aujourd'hui, quelques initiatives tentent de relancer cette culture en incitant les habitants à planter dans leur jardin cet arbre capable de produire chaque année des centaines de gros fruits amidonnés. Mais le mouvement progresse lentement. Tandis que les Hawaïens continuent d'importer du continent des pommes de terre, qu'un équivalent local pourrait pourtant remplacer, constate l'auteur. Plus qu'un carnet de route, Reportages Hawaïens sonne comme un avertissement. L'archipel, indique Alexis Riopel, concentre sur un territoire minuscule des tensions qui traversent déjà bien d'autres régions du monde. Raréfaction de l'eau, érosion des sols, dépendance envers les importations, disparition de savoir-faire agricole. On peut y voir en accéléré ce qui attend bien d'autres sociétés, la nôtre comprise, observe-t-il. Aloha, symbole d'un réveil. À cette échelle insulaire, les liens entre environnement, économie et culture apparaissent avec une clarté saisissante, tout comme les leviers, parfois modestes, capables d'en infléchir le cours. Et si la nature hawaïenne est en souffrance, la culture, elle, semble reprendre vie. Après des décennies de recul, la langue autochtone, ou Olelo Hawaii, connaît un nouveau souffle, porté par les écoles d'immersion et l'engagement des jeunes générations. Alexis Riopel rappelle qu'elle demeure toutefois minoritaire, au septième rang des langues les plus parlées de l'archipel, après l'anglais, le coréen ou le japonais, mais qu'elle imprègne le quotidien à travers des mots passés dans l'usage courant comme « aloha »,« bonjour »,« mahalo », »,« merci » ou « keiki », »,« enfin ». La culture, comme au Québec, passe beaucoup par la langue. Ce regain donne de l'espoir, affirme-t-il, soulignant que cette renaissance est inclusive, réunissant aussi bien les autochtones que les nouveaux arrivants. Un signe de cette vitalité se retrouve même dans la culture populaire. La série « Chief of War », sortie récemment sur Apple TV+, et parlée majoritairement en hawaïen, contribue à faire rayonner la langue loin des rivages des îles. Au fil des pages, le journaliste esquisse un portrait nuancé d'Hawaï, bien loin du cliché balnéaire. Il y a Ray, son propriétaire septuagénaire venu du continent dans les années 1970, devenu cultivateur de taro et surfeur assidu, incarnation d'une vie insulaire adoptée de cœur. Il y a également le passé douloureux de la monarchie, renversée à la fin du 19e siècle, ou l'empreinte des migrations originaires d'Asie pour le travail dans des conditions effroyables au cœur des plantations de canne à sucre et d'ananas, une histoire de métissage et de lutte sociale. Au fil des rencontres, l'auteur rend hommage à celles et ceux qui s'engagent dans cette renaissance. Enseignants transmettant la langue aux enfants, agriculteurs replantant des arbres endémiques, scientifiques scrutant les bouleversements, militants défendant les récifs coralliens, conteurs ravivant la mémoire des anciens. Autant d'initiatives locales et souvent discrètes qui esquissent un autre avenir possible. Ce n'est pas une utopie, mais un travail patient, presque artisanal, observe Riopel. Doté d'une nature unique au monde, façonné en quelques millions d'années sur des volcans surgis de l'océan, l'archipel est, selon Riopel, un microcosme où les tensions entre préservation et modernité s'affrontent. En s'intéressant à Hawaï, on peut comprendre ce qui nous attend ailleurs. Les problèmes y apparaissent plus clairement, tout comme certaines pistes de solutions, résume-t-il. Reportages hawaïens se lient comme une immersion dans un laboratoire à ciel ouvert, où les grands défis du 21e siècle, crise climatique, érosion de la biodiversité, mondialisation culturelle, se concentrent sur un territoire minuscule, isolé au cœur de l'océan Pacifique, mais riche d'enseignements pour le reste de la planète. C'était Hawaï, reflet annoncé de nos désastres écologiques, un texte d'Ismaël Oussadine, paru le 12 août 2025 dans Le Devoir.
Les merveilles du cosmos, un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse. Des nouvelles de YR4. L'astéroïde 2024 YR4 a fait les manchettes au début de l'année parce qu'il y avait alors 3% de risque qu'il percute la Terre. Il menace maintenant beaucoup moins notre planète, mais il y a 4% de risque qu'il percute la Lune le 22 décembre 2032. La Terre ne devrait pas être affectée par des débris lunaires après l'impact, selon Andy Rifkin de l'Université Johns Hopkins à Baltimore, qui suit le parcours de l'astéroïde de 60 mètres de diamètre. Les missions lunaires ne sont pas affectées non plus et un impact permettrait de mieux comprendre la formation des cratères, selon M. Rifkin. S'il avait percuté la Terre, YR4 aurait détruit une superficie de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Un volcan de 20 km de haut. L'orbiteur Mars Odyssey a croqué pour la première fois un volcan martien dépassant les nuages. Arcia Mons, qui n'est pas entré en éruption depuis au moins 50 millions d'années, fait 20 km de haut et a un diamètre de 450 km. Les nuages à cet endroit de l'atmosphère martienne sont faits d'eau glacée, alors qu'ailleurs ils sont faits de dioxyde de carbone. Olympus Mons, le plus haut volcan martien, mesure près de 22 km de haut pour un diamètre de 600 km. Une tempête solaire record. La tempête solaire la plus intense de l'histoire vient d'être identifiée. Elle a eu lieu il y a 14 000 ans et a été 500 fois plus forte que la tempête record de l'histoire moderne, survenue le 31 octobre 2003, et 18 % plus forte que la tempête la plus intense connue, qui a fait rage en 775 au temps de Charlemagne. Ce nouveau record a été identifié grâce à l'analyse d'arbres fossiles en Finlande et décrit en mai dans l'Earth and Planetary Sciences Letter. Les tempêtes solaires sont dangereuses parce qu'elles provoquent une expansion de l'atmosphère terrestre, ce qui ralentit les satellites en orbite basse, comme ceux de Starlink. L'éclipse qui a ébranlé les pharaons. le culte du soleil en Égypte pourrait avoir été victime d'une éclipse solaire, selon une nouvelle étude italienne. Des archéo-astronomes de l'École polytechnique de Milan ont calculé que l'itinéraire d'une éclipse ayant eu lieu en 2471 avant Jésus-Christ la plaçait en plein au-dessus des pyramides de Gizeh, érigées par la 4e dynastie, qui considérait que les pharaons étaient fils de Ra, dieu du soleil. Mais c'est en voyant l'éclipse que le pharaon Chepsescaf aurait relégué Ra au rang des dieux ordinaires, selon les conclusions des chercheurs milanais publiées l'hiver dernier sur le site de pré-publication ARXIV. Les deux dynasties pharaoniques suivantes ont tenté de remettre au premier plan le culte de Ra, avec un succès variable. Des bactéries sur la Lune. Des ingénieurs indiens ont testé la capacité de bactéries à réparer des briques faites de poussière lunaire, le régolithe. Ces briques serviront à fabriquer d'éventuelles bases lunaires. En mars 2025, les chercheurs de l'Organisation de recherche spatiale indienne, ISRO, ont décrit dans Frontiers of Space Technology comment la bactérie Sporosarcina pasteurii parvient à réparer partiellement des briques de régolithe en interagissant avec un polymère. Cela permettrait de combler d'éventuelles fissures causées par des météorites sur la Lune. Le concept sera testé en 2027 lors de la première mission humaine indienne en orbite terrestre à bord du vaisseau Gaganyaan, véhicule céleste en sanskrit. Dans le même ordre d'idées, des ingénieurs de la NASA proposent de cultiver sur Mars des algues pour les transformer en bioplastique. Un hélicoptère sur Titan. Malgré les coupes de l'administration Trump, la mission Dragonfly vers la lune saturnienne Titan vient de franchir une étape importante en vue de son lancement en 2028. L'hélicoptère Dragonfly, dont la construction peut maintenant commencer, doit chercher des molécules prébiotiques, signe de la vie sur cette surface recouverte de lacs de méthane découvert par la sonde européenne Huygens, qui a atterri sur Titan en 2005. Elle est la seule lune à avoir une atmosphère aussi dense que celle de la Terre. Dragonfly doit voler au moins 3 ans sur Titan. C'était « Les merveilles du cosmos », un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse.
Le féminisme intersectionnel, ce que cela signifie et son importance aujourd'hui. Un texte de la rédaction, paru le 12 juin 2025 sur le site ONU Femmes. Qu'il s'agisse des catastrophes climatiques qui frappent le plus durement les communautés les plus démunies, de la montée en puissance du racisme et des discriminations, ou encore de la propagation de la misogynie en ligne et des discours anti-droits, il est évident que l'égalité reste inaccessible pour un grand nombre de personnes. Il est compréhensible de se sentir dépassé face à l'accumulation des injustices dans le monde. Alors, comment donner du sens à tout cela et comment lutter? Le féminisme intersectionnel offre une clé de compréhension. Il nous aide à saisir comment différentes formes d'inégalités telles que le racisme, le sexisme, le capacitisme et le classisme ne coexistent pas simplement côte à côte, mais qu'elles interagissent et se renforcent mutuellement. Qu'est-ce que le féminisme intersectionnel ? Le terme a été inventé par la juriste Kimberly Crenshaw en 1989. Elle décrit l'intersectionnalité comme un prisme permettant de voir la manière dont diverses formes d'inégalités fonctionnent souvent ensemble et s'exacerbent les unes les autres. Toutes les inégalités ne se valent pas, souligne-t-elle. Nous avons tendance à aborder les inégalités raciales comme étant séparées des inégalités basées sur le genre, la classe, la sexualité ou le statut d'immigré. Ce qui manque souvent, c'est la manière de comprendre comment certaines personnes sont sujettes à toutes ces formes d'inégalité et que cette expérience n'est pas simplement la somme de ces parties. Autrement dit, toutes les inégalités ne se vivent pas de la même façon. Une femme noire, un ou une adolescente transgenre, un ou une migrante en situation de handicap, peut subir des discriminations façonnées par tous les aspects de son identité et pas uniquement par un seul. Le féminisme intersectionnel inscrit ces réalités au cœur de son raisonnement. Il nous invite à écouter celles et ceux qui sont confrontés à plusieurs formes d'oppression et à concevoir des réponses qui prennent en compte l'ensemble de leur situation. À quoi ressemble l'inégalité intersectionnelle? Les voix féministes noires. Valdecir Nascimento, militante féministe noire de premier plan au Brésil, l'exprime simplement. Le dialogue, pour faire avancer les droits des femmes noires, doit les placer au cœur de la réflexion. Elle se bat depuis plus de 40 ans pour la justice, non seulement dans le mouvement féministe, mais aussi au sein des mouvements noirs et progressistes au Brésil. Les femmes noires du Brésil n'ont jamais cessé de lutter. Nous ne voulons pas que d'autres parlent à notre place, ni les féministes blanches, ni les hommes noirs. Le temps est venu pour les jeunes femmes noires de prendre les rênes. Nous sommes la solution au Brésil, pas le problème, ajoute-t-elle. Les filles autochtones et les opportunités manquées. Le féminisme intersectionnel reconnaît que l'injustice s'insinue tant dans le passé que dans le présent. Des siècles de violence, de racisme et de discrimination ont creusé des inégalités profondes qui continuent de déterminer l'accès à l'éducation, à la sécurité, à un emploi digne, aux soins de santé et au pouvoir politique. Sonia Maribel Sonte Herrera, militante guatémaltèque pour les droits des peuples autochtones, est bien placée pour le savoir. Enfin, elle a quitté son village pour étudier en ville, une opportunité dont peu de filles autochtones ont la chance de bénéficier. Mais pour cela, elle a dû abandonner sa langue maternelle, le quiché, pour apprendre l'espagnol. Plus tard, lors de ses recherches d'emploi, on lui a fait comprendre que le seul travail disponible pour une personne comme elle était celui de domestique. On nous perçoit comme des domestiques. Quand une femme autochtone se présente, on suppose que c'est tout ce dont elle est capable, dit Sonia Maribel Sonte Herrera. Les favelas en première ligne de l'injustice climatique. Pour Anne-Héloïse Barbosa, jeune militante brésilienne, chef de file de l'action en faveur de la justice climatique, l'inégalité plurielle est une réalité qu'elle connaît bien. J'habitais dans une favela, un quartier pauvre où vivent des communautés marginalisées, le genre d'endroit à qui, lors de fortes pluies, est le premier à souffrir de glissements de terrain et d'inondations. Les habitants et les habitantes de ces bidonvilles en périphérie doivent faire des trajets de 3 heures en bus pour se rendre au travail et 3 heures pour rentrer chez eux ou chez elles. C'est indigne et c'est injuste. De prime abord, des problèmes tels que la violence à l'égard des femmes, l'injustice environnementale et la discrimination peuvent sembler déconnectés. Or, le féminisme intersectionnel révèle leur interdépendance. Il propose en effet un cadre pour combattre toutes les formes d'oppression simultanément en se concentrant sur les femmes les plus affectées et en bâtissant des mouvements inclusifs. les femmes et les filles sont particulièrement menacées par les urgences actuelles comme le changement climatique, les droits numériques, l'intelligence artificielle. Ajoutez l'intersectionnalité et vous comprendrez que la lutte pour les droits des femmes noires et des femmes trans reste plus que jamais nécessaire, dit Anne-Héloïse Barbossa. Pourquoi le féminisme intersectionnel est plus important que jamais? L'écart entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont poussés à la marge se creuse à vive allure, selon le dernier rapport social mondial de l'ONU. En 2025, les chocs climatiques, les discriminations liées à la technologie, les tensions économiques et des politiques régressives convergent pour créer une situation explosive qui frappe le plus durement les populations les plus vulnérables et marginalisées de nos sociétés. Les femmes noires et autochtones, les jeunes transgenres et queer, les femmes en situation de handicap et les filles vivant en milieu rural subissent les intersections les plus marquées des inégalités et sont confrontées de plein fouet aux crises d'aujourd'hui. Si vous êtes invisible au quotidien, avertit la militante thaïlandaise des droits humains Macha Phorn In, vos besoins ne seront ni pris en compte ni satisfaits en cas de crise. C'est pourquoi le féminisme intersectionnel prend toute son importance en 2025. Il éclaire la façon dont les systèmes d'oppression s'entrelacent et s'amplifient mutuellement, soulignant la nécessité de réponses tout aussi interconnectées. Comme nous le rappelle Kimberly Crenshaw, considérer l'inégalité comme un problème qui concerne eux ou les autres démunis, c'est là que réside le problème. Le féminisme intersectionnel ne se limite pas à un simple prisme. C'est une bouée de sauvetage pour beaucoup. Il nous invite à agir et à axer les solutions sur les personnes qui subissent le plus fortement les crises et les inégalités. En nous poussant à creuser plus profondément, il nous invite à bâtir des mouvements qui rendent justice à toutes les femmes et à toutes les filles. C'était le féminisme intersectionnel, ce que cela signifie et son importance aujourd'hui, un texte de la rédaction paru le 12 juin 2025 sur le site ONU Femmes.